messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors Groucho Marx disait « Parti de rien, j'ai atteint la misère ». Et moi je dis aujourd'hui « Parti de rien, j'ai atteint les vacances grâce à Estivalitude », ce qui est un net progrès. Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci...
C'est ouvert à tout le monde.
Tout le monde.
Tout le monde.
Ouais, comment on dit ça ?
Formidable !
Julie Gayet, quel plaisir de recevoir ce matin une comédienne précise, toujours juste, drôle et pas drôle, précieuse dans le bon sens du mot. Dans « C'est quoi cette mamie ?», une comédie de Gabriel Julien Laferrière, vous incarnez une mère routarde et roots, débordée par une mamie psychédélique. Didier Van Kovelaert, vous êtes l'un de nos écrivains les plus lus, vous êtes non seulement un romancier à succès, prix Goncourt, mais un écrivain délicatement engagé, comme le prouve votre dernier livre, « Une personne de confiance », dans lequel vous évoquez une mamie milliardaire, mais éprise de justice. Le fait est que ce matin, dans Estivalitude, les mamies les plus indignes sont à l'honneur. Magnéto Juliette.
Estivalitude.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut rien dire.
Christophe Bourseiller, sur France Inter.
Julie Gayet, si je vous dis Didier Van Kovelaert, ça vous dit quoi ?
Bonjour.
Ça vous dit
bonjour. Bonjour Didier, enchanté.
Enchanté.
On vient de se rencontrer.
Oui.
Voilà, on ne s'est jamais rencontré.
Eh bien, c'est vrai.
On s'est croisé un jour dans un TGV où vous étiez assiégé par tel genre et je vous avais trouvé d'une courtoisie et alors visiblement vous aviez autre chose à faire et c'est toujours agréable de voir. Parce que les gens ont une demande comme ça de proximité. Aujourd'hui, les selfies et tout. Et c'est vrai que ça tombe pas toujours très bien. Et là, discrètement, je vous observais. Vous aviez fait un sans faute pour les gens. Là.
Bah, Elle était disponible.
Ouais.
Je vous avais pas vu. Bon, ben voilà, je découvre.
Vous connaissiez le travail et vous aviez lu les livres de Didier Van Kovelaert ou pas du tout ?
Alors, je n'ai pas lu, mais je connais le travail de Didier quand même. Et j'avais vu une émission de la grande librairie. Je crois, il y a un moment où vous étiez, et voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas. Alors, je sais aussi que vous faites du cinéma, donc peut-être qu'on se croisera plutôt dans ce monde-là.
Ouais.
Mais non, je n'ai pas lu.
Alors, votre point commun dans notre émission, Didier et Julie, c'est curieusement ce personnage de film et de roman qui est la grand-mère indigne. Alors, en quoi la grand-mère est-elle un personnage de roman, Didier Van Kovelaert ?
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les passerelles entre les âges, entre les antipodes de la société. Comment tout à coup, un jeune de banlieue découvre une vieille dame. Ils auraient jamais dû se rencontrer, sauf que lui, il est grutier pour la fourrière, un de ces cow-boys urbains qui vous enlève votre voiture en 35 secondes, 12 dixièmes. Et elle, on l'a oubliée à l'intérieur. Et il va découvrir, après, alors, ce qui est terrible pour lui, parce que c'est une cause de renvoi immédiat quand on charge une voiture garni. Et il va se créer entre ces deux êtres un rapport immédiat de découverte mutuelle, de mise en danger et de confiance.
Alors on va parler longuement de votre livre, mais là je voudrais juste essayer de comparer les deux grand-mères. Donc vous, il y a cette femme qui est dans une Rolls, on devine que c'est quelqu'un plutôt de très fortuné.
Sauf que, en tout cas, elle est dans une voiture, et puis on découvrira que la situation est très différente, mais en tout cas, elle est apparemment dans un état de confusion mentale qui ressemble à de l'Alzheimer. Et on va voir qu'il y a derrière les apparences de cette maladie et pourquoi elle est dans cet état-là, grâce à ce garçon.
Alors Julie Gayet, je vous propose d'écouter sans attendre la bande-annonce du film « C'est quoi cette mamie ?» qui sort aujourd'hui.
Moi, c'est Gulliver. Et ma famille, elle est très très recomposée. On veille les uns sur les autres. Cet été, on part en vacances chacun de son côté.
T'es avec toi jusqu'au 26, Gulliver.
Non, je le récupère le 26. Pourquoi on ne voit pas chez ta mère, hein ?
N'importe quoi.
Bonjour, mamie.
Ah, m'appelle pas mamie, ça colle des rides. Première règle, avant 14h, tu comptes pas sur moi. Et après 17h, c'est pareil, c'est l'heure de l'apéro.
Hey, mon Dudu ! Comment ça se passe avec mamie ?
Super, il s'éclate et m'appelle pas mamie.
Papa, il te fait...
Ouais, salut.
Je viens de sauver Gulliver parce que tu fais n'importe quoi. T'as très bien entendu, mamie. On débarque tout chez toi.
Ouais.
Ah, salut, mamie.
Ce soir, c'est toi qui nous fais le repas.
Tortionnaire. Qu'est-ce qu'on fait avec une aubergine ? Ah, vous voulez une vraie grand-mère ? 20h pour les petits, 21h pour les grands. Les vacances chez mamie Aurore, c'est aussi les vacances de mamie Aurore.
Vous l'avez reconnue.
Chantal Latsou. Alors Julie Gayet, ça nous change un peu d'Emmanuel Mouret là, hein, quand même, on est dans un autre univers.
Ça c'est certain.
Hein, il me semble-t-il. C'est la suite de C'est quoi cette famille, c'est ça?
C'est ça. Ouais. C'est la suite et c'est vraiment Chantal Latsou, le personnage principal, qui donc est ma mère et la mère aussi de Julie Depardieu. Donc nous sommes sœurs. J'ai eu 3 maris. Avec chaque mari, j'ai eu des enfants qui eux-mêmes avaient des enfants avec d'autres femmes. Et en même temps, Julie Depardieu était avec mon ex, qu'elle a eu d'autres enfants. Donc tous ces demi-frères, voilà ce qui était dans C'est quoi cette famille, en ont marre de voyager d'un appartement à un autre et ont tous décidé d'habiter dans un appartement. Et bien là, c'est la suite. Et maintenant, c'est les vacances, il faut qu'ils rentrent, on va vendre l'appartement. Et qu'est-ce qui va se passer?
Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer?
Donc, la grand-mère, la mamie.
Absolument. Donc, vous m'avez fait un reproche tout à l'heure, Julie Gayet.
Non, c'est pas un reproche. Je disais juste, on demande aux femmes, mais pas aux hommes.
Non, mais c'est-à-dire que j'avais commencé à lui poser la question, puis il est parti dans une anecdote sur le TGV.
Oui,
mais
non,
vous connaissiez, bien sûr, les films de Julie Gayet,
qui est ferroviaire. Le travail, non, le travail
elle
de Julie.
N'est pas que contrôleuse et... à la SNCF.
Non, mais c'est vrai que j'ai pas vu tous vos films, mais j'en ai vu quelques-uns quand même. Ouais. J'aime beaucoup cette palette justement entre le cinéma dit d'auteur, hein, Mouret, tout ça. Et puis, bah, j'ai un très bon souvenir de ce que vous faisiez dans Quai d'Orsay, qui est un film que j'adore, qui est très très drôle, très fin, très subtil. Et je trouve que ces contre-emplois comme ça sont très intéressants. Vous avez un humour et une classe dans l'humour que je trouve vraiment inspirante.
Non, mais je ne disais pas ça pour ça, hein. C'était alors, vraiment pour le plaisir. Mais j'espère, bon, voilà, peut-être qu'on tournera ensemble.
Ah oui, c'est vrai que moi, ce qui me passionne chez les comédiens, c'est quand ils ont cette agilité qui permet d'être crédible aussi bien dans la vraie comédie franche et massive que dans les subtilités parfois un petit peu plus hermétique, tout ça. Et ce qui compte, c'est la sincérité, la sensibilité et suffisamment de métier pour pas donner l'impression d'une prestation laborieuse, quoi. C'est ça, cet état de grâce chez les comédiens. Quand il est là, c'est une merveille.
Ah, c'est ça le plaisir. C'est cet état de grâce-là, vraiment, vraiment. Et la comédie aussi sincère, je suis entièrement d'accord. Ce que j'aime avec Chantal Latsou, malgré son air d'enfer, comme ça, des caisses, sa grosse voix et son personnage un peu autoritaire et assez rigolote, c'est quelqu'un de très sensible et très sincère. Et donc j'aime cette sincérité.
Et puis comme tous les grands comiques populaires, les vrais comiques populaires, un tour de vis et on est tout à coup dans quelque chose de bouleversant, de très dur, et comme on l'a vu avec Bourville, avec Galabru, et c'est vrai
que... Là, elle est très émouvante dans le film.
Elle devient
sûrement
très émouvante.
J'ai fait quelques émissions, j'ai été en studio avec elle, et c'est quelqu'un que je trouve dans la vie d'une délicatesse, d'une... Ouais. C'est pas du tout... Il y a des comiques qui restent, qui sortent habillés, si je puis dire, après dans la vie, ils font leur numéro. Elle, pas du tout, il y a quelque chose en mineur qui est très attachant et très féminin.
Là, il faut quand même que je dise à nos auditeurs que ce qu'elle fait dans le film, puisqu'elle est en fait l'archétype d'une sorte de grand-mère punk qui refuse de vieillir. On la voit, elle couche avec un couple, elle sort toutes les nuits, elle ne mange que de la junk food, elle se drogue, elle vit en fait une espèce de Dolce Vita. Ah non, pas du tout, j'ai pris des notes. Vous savez, moi je prends des notes.
Et donc, c'est tout à fait juste, c'est Chantal Latsou.
Elle vit une sorte de Dolce Vita jusqu'à la mort. Et au fond, ça me faisait penser un peu quand on voit cet impératif de grand-mère karatéka, c'est un peu ça. Didier Van Kovelaert, il est interdit de vieillir de nos jours. Il faut que la grand-mère soit une espèce de chef de troupe marrante, une roqueuse de diamants.
Mais dans la Boum, hein, c'était cette grand-mère-là. Hein.
Ouais, Moi, ce qui me fascine chez les vieux qui ont cette énergie-là, et disons les vieux, ils détestent qu'on les appelle des seniors, hein, en général. ça fait encore plus vieux, ça fait...
C'est affreux.
Donc, l'énergie de la vieillesse au service... Ça, c'est ce qui se passe dans mon roman, au service de la détresse des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui marche souvent très fort, parce que des gens qui ont apparemment la vie devant eux et un tel poids de détresse qui les fossilise, qui les bloque, qui les désespère. Et à côté de ça, cette énergie des vieux à qui on ne demande plus rien, souvent, qui sont un peu en réserve de la République, de la société, comme ça, et qui, mis en situation de pouvoir aider, vont se réveiller d'une manière, et ça c'est un thème, et depuis mon premier roman, ça revient très souvent, ça. J'ai connu dans ma vie cette énergie de vieux qui repartent, qui sont encore plus jeunes que des gamins.
Qui retrouvent une jeunesse éternelle.
Et sortir, interrompre sa retraite. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est un thème. C'est un truc que j'ai connu avec mon père. Mon père a été avocat pendant 50 ans. Il a pris 10 ans de retraite et a plus ou moins bien vécu. Et un jour, un de ses confrères a d'énormes soucis. Et il reprend son cartable, il le remonte de la cave et il va retravailler dans un cabinet d'avocat. Il revient faire tout le boulot et il ressuscite, il rajeunit de 10 ans. Quoi. Et cette énergie-là, elle soulève des montagnes et elle pense les blessures et elle ouvre les horizons.
Mais elle bouscule aussi les petits-enfants, cette Chantal Latsou, Mamie Aurore, parce que aussi elle a pas de tabou, plus de barrières. Enfin, il y a quelque chose de cette génération, moi qui me, je suis tout à fait d'accord. Elle peut se permettre de régler, parce qu'on le voit dans le film, donc les petits-enfants ont des problèmes, des soucis, et elle va.
Elle joue son rôle de grand-mère aussi à ce moment-là.
Voilà, exactement. Mais sans tabou, c'est-à-dire qu'elle peut se permettre, nous les parents qui devons donner une éducation, des interdits, elle a plus ce rôle-là.
Et que les personnages n'arrivent pas à faire. Vous n'arrivez pas à le faire en tant que mère, vous, dans le film en tout cas.
Disons qu'en tout cas, c'est des parents plus bobos, qui laissent faire leurs enfants, qui sont beaucoup plus libre, cette nouvelle éducation. Enfin là, Dolto est passé par là, on va dire. Et alors elle est pas du tout là-dedans, et pourtant très rock'n'roll, comme vous le disiez, mais qui malgré tout va résoudre les problèmes.
D'accord.
Mais... Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. C'est peut-être la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi? Pourquoi je serais différent des autres? Mon seul don, c'est vouloir être différent des autres. Et pour ça, j'ai la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page de vin. Si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin. Oh, j'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux, toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant, j'ai plus 19 ans, et je crois bien que les gens bizarres du showbiz disent que mes disques se vendent. Yes, concert complet dans toutes les villes de France, on était déjà passé par là en van. Sur scène, je donne tout, j'en ai 2000 devant, mais je suis toujours mal à l'aise quand je parle à un fan.
Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
Seul à 3h du mat, dans un bar on peut reconnaître pâle. Sous ma poitrine c'est plus froid qu'en Islande. Dans mon caleçon c'est plus chaud qu'au Népal. Je fais que déconner, pardon. Chaque semaine je couche avec une nouvelle fille que je connais pas. Est-ce que j'essaie de me venger? Me venger de toutes ces années où je plaisais moins aux filles que les mecs dérangés. Où je me sentais partout étranger. Où je servais qu'à nourrir leur ego quand c'est pétasse. Ouais, aujourd'hui c'est moi qui monte les étages, ouais. Bon d'accord, j'étais consentant quand je rentrais dans leur spirale. C'était toujours mieux que d'être invisible. Maintenant je ressens plus rien, je m'intéresse plus qu'à leur physique. Et tous les soirs le diable me rend visite. Fini les grosses gardes, trop fausses gamins, j'étais tellement bête. Je veux un Oscar pour chaque film que je me suis fait dans la tête. Merde, avant j'étais un peu froid, maintenant je le suis complètement. C'est trop tard pour combler le manque.
Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci, j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
Évidemment que je veux briller comme l'or, j'ai passé ma vie invisible comme l'or. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant? Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant, ouais. Des millions d'heures seules dans le noir, Dieu merci j'ai enfin confiance en moi. Pourquoi vous voulez m'aimer maintenant?
Sert plus à rien de m'aimer maintenant.
Le jeune rappeur L'Homme Pâle, âgé de 27 ans, c'était un tube ça, hein, j'ai cru reconnaître un tube, évidemment.
Christophe Bourseiller, Estivalitude, sur France Inter.
Didier Van Cauwelaert, la mamie de votre personne de confiance, n'a rien à voir avec Chantal Latsou, rien à voir avec celle du film de dans lequel est également Julie Gayet. Moi, elle me fait penser à quelqu'un d'autre. J'aimerais que vous écoutiez cet entretien télévisé.
Aujourd'hui, quelle est votre réaction? Vous êtes blessé, indigné?
Je suis à la fois peiné et vexé. Parce que je me dis, est-ce que vraiment, au bout de tant d'années, quelqu'un qui a vécu quand même près de moi, etc., a des réactions petites comme ça?
Mais votre fille s'inquiète pour vous, est-ce que vous le comprenez?
Non, je m'inquiète beaucoup plus pour elle.
Elle considère que vous êtes mal entouré, elle pense qu'il y a une machination contre votre...
Qu'elle s'occupe d'elle-même. Ma vie, c'est ma vie.
Qu'elle s'occupe d'elle-même, ma vie, c'est ma vie. Alors là, c'était Liliane Bettencourt sur France 3 en 2010. Alors moi, je trouve que donc votre grutier orphelin enlève une Rolls Malgaret dans laquelle il y a une milliardaire. Mamie Larmor, c'est
ouais,
ça?
Sauf que Madeleine Larmor-Pleuben, son vrai nom, était une aide-cuisinière au moment où les Allemands envahissent la France et le château où elle travaille, réquisitionné par l'état-major de la Wehrmacht, et elle est recrutée, elle, par la résistance pour espionner ces Allemands qui sont là. C'est une héroïne de guerre, ces héroïnes précoces, c'est ces gamines de 15-16 ans dont on ne se méfie pas, et qui font cet extraordinaire boulot d'information, de surveillance, de mise en confiance, comme ça, de l'ennemi. Et puis après, à la fin de la guerre, évidemment, il y a eu beaucoup de massacres et tout. Les survivants décident, dans ce petit bled breton, de faire redémarrer les choses et de créer une biscuiterie artisanale. Et elle, l'aide cuisinière, va créer des recettes formidables. Et ça va devenir la grande marque de biscuits Mamie Larmor.
Tout le monde a croqué du Mamie voilà. Larmor un jour. Julie Gayet, vous aussi.
Bah oui,
et donc, si vous voulez, c'est vrai que je me suis inspiré des paquets de, vous savez, les sablés de... le nom m'échappe, du coup mon nom de fiction s'est greffé dessus.
Écoutez, je peux pas vous aider sur les marques
de Mont-Saint-Michel. Oh,
par contre, il y a des ressemblances, il y a quand même une ressemblance avec Liliane Bettencourt, même si j'ai bien compris que les parcours étaient très différents, notamment pendant la guerre. Donc les parcours sont très différents,
oui,
mais néanmoins il y a la ressemblance,
le départ,
conflit familial.
Là avec Madeleine, on est vraiment sur quelqu'un de parti de zéro qui a fait vraiment une entreprise qui a pris un essor formidable, mais qui est toujours restée fidèle à ses débuts. Elle a décidé que son usine derrière elle, ce serait pas vendu, ce serait un système participatif. Elle veut donner ses usines à son personnel. Et évidemment, son neveu, qui est son seul héritier, n'est absolument pas d'accord. Et là, il va faire en sorte de lui faire prendre des médicaments qui donnent l'impression de crise d'Alzheimer, de manière à après mettre tout l'appareil.
Car elle est quand même devenue
de protection.
Archi-milliardaire.
Pas archi-milliardaire, parce que non, c'est l'entreprise qui était florissante, mais après, vu qu'elle a refusé les plans sociaux, la délocalisation, tout ça, l'entreprise est déficitaire depuis 3 ans. Alors, elle a les apparences, parce que c'est le neveu, c'est la voiture du neveu qui est venue la chercher, parce que quand elle a su qu'il y avait un conseil d'administration à Paris qui allait entériner la proposition de vente, puisque là, son neveu, c'est lui qui a la tutelle, vu que l'autre, elle passe pour Alzheimer, il a envoyé la voiture la chercher, vite, chez le pharmacien pour renouveler les médicaments qui la mettent en état de confusion mentale. Et c'est là que
le grutier intervient.
Tandis que le chauffeur est à la pharmacie, il enlève la voiture et en fait il va lui sauver la vie.
Mais ce grutier, il est formidable. Il faut quand même insister là-dessus. C'est, vous avez un personnage, un jeune orphelin, quelqu'un de très touchant, Maximilien Médard, que tout le monde appelle Max.
Oui, parce que on l'a trouvé dans un local poubelle à Bobigny, rue Robespierre, donc d'où son prénom, et le jour de la Saint-Médard, d'où son nom. C'est l'assistance publique vous baptise comme ça pour des raisons de date et de géographie quand vous êtes un enfant d'origine inconnue. Et il est placé dans différents foyers d'accueil. Alors, ça se passe plus ou moins bien, plutôt mal que bien. Mais c'est quelqu'un de tellement positif. Ça, ce sont des natures comme ça. Ça qui m'intéresse beaucoup. Vous avez des gens qui ont traversé les pires choses et qui sont toujours en état d'hyperlucidité et d'envie de faire bouger les choses autour de lui. Par exemple, un jour, l'un de ses faux pères, de la DAS, comme il dit, est un type qui est un ancien correcteur de magazine, et dès qu'on fait une faute de français en lui, c'est une torgnole. Alors il dit, oui, c'est un enfant battu, mais en même temps, il parle un français quand même châtié, quoi. Ce type ne châtiait pas
quand même intéressant
que la langue.
Actif, être actif, c'est vous, ça, Julie Gayet, vous êtes une femme active, vous faites plein de choses, vous vous contentez pas d'être... Le métier de comédien a toujours une dimension passive, vous ne vous contentez pas d'être comédienne. Vous êtes aussi une femme engagée, vous êtes une femme sur plein de fronts en même temps.
Je sais pas si métier de comédien est passif, mais c'est vrai que moi j'aime le concret, en tout cas. J'ai toujours, j'ai jamais projeté dans des rêves, un réalisateur un jour me proposera un rôle, bon ben voilà, faisons autour, faisons
comme
avec
ça,
les camarades.
Comme ça vous êtes passé dans
la
production aussi.
Voilà, oui. Voilà, exactement. Alors, bon, bah, il sait tout, alors. Je produis et ça se sait pas toujours, par le grand public se sait pas toujours, mais voilà, c'est vraiment devenu, et maintenant je distribue.
Ah, vous êtes distributrice également.
Voilà.
De plus en plus actif.
c'est
ce que je dis. C'est très bien que ça arrive en France, parce que c'est assez courant aux États-Unis. Généralement, les comédiennes, justement, qui ne se satisfont pas d'être un produit à un moment donné lié à un âge, un emploi, bah, les plus grandes, hein, elles continuent leur carrière parce que elles génèrent les rôles, les films qui leur correspondent quand elles ont envie, et elles fédèrent des talents aussi.
Elles produisent même des réalisateurs sans jouer dans les films. Enfin, les acteurs aux États-Unis et actrices le font depuis un moment, et c'est vrai, quand j'ai commencé, on me regardait un peu, mais ah oui, mais c'est donc tu produis des films pour toi ? Non, je produis des réalisateurs. Parce que
pour les autres, c'est pas pour me donner des rôles à moi toute seule.
Productrice, j'aime les metteurs en scène, mais comme vous, donc...
Alors, il y a un événement surprenant dans votre vie, Didier Van Kovelaert, et je voudrais que vous écoutiez ce petit document qui date de 1952. C'est pas vous, hein.
Au moment où j'ai écrit Huis clos, j'avais trois amis, et je voulais qu'ils jouent une pièce de moi, sans avantager aucun d'eux. C'est-à-dire, je voulais qu'ils restent ensemble tout le temps sur la scène. Parce que je me disais, s'il y en a un qui s'en va, il pensera que les autres ont un meilleur rôle au moment où il s'en va. Je voulais donc les garder ensemble. Et je me suis dit, comment peut-on mettre ensemble trois personnes sans jamais en faire sortir l'une d'elles et les garder sur la scène jusqu'au bout comme pour l'éternité? C'est là que m'est venue l'idée de les mettre en enfer et de les faire chacun le bourreau des deux autres.
Alors voilà, c'est l'émission Bifurque, ça a dû être une émission Jean-Paul sur Jean-Paul Sartre
qui parle de Huis clos. Et c'est génial, je ne connaissais pas cet extrait, merci.
Moi non plus.
Merci
1952. Christophe.
Parce que c'est toujours fascinant d'écouter le créateur expliquer, bah, comme un chef, ses recettes, ses secrets de cuisine, quoi.
Mais vous avez une histoire personnelle avec Jean-Paul Sartre.
Et oui, alors, en 77, j'étais au lycée, au club théâtre, et je décide de monter, je m'occupais du club théâtre, parce que, même chose, moi je supportais pas d'être un élève passif, et le théâtre qu'on peut faire avec trois bricoles, deux chaises et tout ça, c'est génial, ça réenchante le monde du lycée, ça réenchante les liens entre les copains, les filles, et tout ça, c'est vraiment
plaisir,
quelque chose.
Ouais.
Et donc, Huis clos, c'est quatre personnes, un seul décor, très facile à monter. Et donc, je monte la pièce et je joue garçon, le rôle de l'homme. Et à l'époque, donc c'était à Nice, où je grandissais, le Jean-Pierre Bisson, qui dirigeait le théâtre de Nice, faisait des auditions.
Grand metteur en scène.
Et non seulement sur le plan artistique, mais sur le plan humain, la générosité. Lui était formidable. Et notamment, il auditionnait les troupes amateurs quand ça lui plaisait. Il donnait les clés du théâtre. Le jour de relâche. Et là, on y va au flanc, on présente Huis clos. Et en fait, il est tout seul dans la salle. Et on l'entend rire une fois, deux fois, trois fois. Au bout de 20 minutes, il arrête, il me dit, c'est super, vous avez la date, ma secrétaire vous appelle et tout. Et on a eu deux soirs au théâtre de Nice. Et alors là, donc, le Centre Dramatique National, quand vous sortez du club théâtre, du lycée, et on fait les affiches, la publicité, je revois ma mise en scène, évidemment, multipliée par 10, les distances et tout ça. Et puis, là-dessus arrive catastrophe, lettre de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Et évidemment, je savais pas qu'il fallait demander l'autorisation. Donc, interdiction de représenter la pièce.
Sans l'accord de l'auteur.
Et là, mon père, qui était avocat, me dit, seule solution, écris directement à l'auteur. Et j'écris Monsieur Jean-Paul Sartre, édition Gallimard, et j'explique qu'on est une troupe, on est fasciné par sa pièce, on a l'extraordinaire opportunité, on savait pas de la jouer dans un grand théâtre professionnel, on savait pas qu'il fallait demander, voilà, la bouteille à la mer.
Et il répond oui.
Cinq
et
jours après, un télégramme, autorisation jouer huis clos, signé Jean-Paul Sartre. On appelle la SACD, on tombe sur un mec un peu coincé, oui, nous sommes au courant, l'auteur a décidé que, bon. Et après, les représentations, là je reçois ça, c'est les merveilleux cadeaux de la vie quand à 17 ans vous recevez une lettre de Jean-Paul Sartre au théâtre, adressée au metteur en scène. Mon lycée s'appelait lycée d'Astiendorf, donc ma troupe j'avais appelé les compagnons d'Astiendorf. Ça faisait un peu FFI, quoi. Il y avait
un peu troupe de résistants.
Et voilà, il y avait un peu de ça aussi. Et Jean-Paul Sartre a écrit une lettre, bon, qui était dictée, il était quasiment aveugle, mais c'était signé.
On était en quelle année précisément?
1977.
1977.
Monsieur, des amis étaient dans la salle l'autre jour pour assister à votre mise en scène de huis clos. Ils m'ont dit que la salle riait. Lorsque j'ai écrit cette pièce, je pensais avoir fait une comédie. Tout le monde a su me prouver le contraire. Merci 30 ans après de m'avoir redonné raison. Alors, et là, vous êtes vacciné pour toujours contre les bons conseils des gens. Vous savez, les catalogues, il faut faire ceci, cela.
Et l'envie d'écrire des histoires, et l'envie de raconter des histoires.
Et puis, d'autant plus que...
Il faut que j'envoie un disque, là. Hein.
Oui,
là, ce serait mieux.
Envoyez, d'accord.
Alors allons-y, un petit air.
En plus, Julie, vous avez tourné dans 3 clips de Benjamin Biolay, et c'est lui qu'on va entendre, dans un clip dans lequel vous avez tourné, dans La Mercobenz.
Merci.
Que voici.
Merci.
Petite princesse, ma beauté, ma promesse, ma petite faiblesse, ma plus belle histoire de fesses, dans la Mercedes, c'est de l'espoir que je caresse. Soviète suprême, toi mon plus beau problème, dans ton abdomen, tout nouveau spécimen, joue à la crème, c'est de l'espoir que je promène. Mon amour renaisse, le temps passe. Mon amour renaisse, le temps passe. Mon amour renaisse, le temps passe. C'est pas l'heure de la grand-messe, mais charmante hôtesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Dans la mer Cobain, c'est de l'espoir que je caresse. Petite connasse, pourquoi fais-tu ta radasse? Ta petite putasse qui montre rien en surface, qui veut qu'on l'embrasse encore, l'embrasse encore. Mon amour renaisse, le temps passe. Mon amour renaisse.
Benjamin Biolay.
Vous avez une histoire avec Benjamin Biolay?
Non.
On vient d'entendre, je précise
toujours
que
c'est une jolie histoire.
Alors, je dis c'est une jolie histoire. Et alors pourquoi faut-il toujours que ce soit une histoire?
Ah non, mais pour moi, une histoire, c'est une histoire au sens très beau du terme. C'était dans la Mercobenz de Benjamin Biolay, une chanson de 2007. Oui, vous disiez.
Je disais que donc, dans les films qui m'ont donné envie de produire, il y a eu Clara et moi, qui est un film dans lequel j'ai joué. Et effectivement, de participer avec le réalisateur à l'écriture du scénario, au choix du casting, de faire tout ensemble. J'aimais beaucoup Arnaud Viard, on était très proche. Et au moment de la fin du film, de se dire, tiens, Benjamin Biolay, ce serait formidable. Et on n'avait pas les moyens, c'était un petit budget. Et il est venu, il a fait la musique du film, comme ça. Il a aimé le film, il nous a offert ça. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et pour le remercier, quand il m'a appelé pour faire ce clip, j'ai dit, bah oui, tu as été là.
Du coup, vous en avez fait trois.
Non, deux.
Ah, il y a eu deux clips.
Oh, oui, c'était le même jour, c'était le tournage.
Et c'était le même jour.
Voilà,
ah, oui,
c'était un, il en a fait deux pour le prix d'un, on va dire.
Bah, écoutez, c'est super. J'aimerais bien qu'on entende Juliette Medevienne nous a concocté un medley de vous, un medley Julie Gayet. Écoutons-le.
Ça va, je suis pas trop portable.
Non, ça va, tout va bien.
Par contre, il faudrait qu'on fasse vite parce que j'ai du japonais en double.
Eh bien, viens, on y va.
D'accord. Tu veux que je t'aide?
Non, c'est bon. Y'a rien. Y'a juste que j'ai fait les courses avec un caddie à moitié pété, j'ai fait une heure de queue au Franprix, j'ai monté les 6 étages à pied avec 60 kilos à bout de bras, et donc quand j'arrive, je suis hyper contente de te retrouver à poil devant une émission culturelle.
Mais je sais pas les faire, les courses.
Vous savez, Arthur, l'Afrique, c'est spécial. Pour la comprendre, il faut la toucher. Et vous, je sais pas comment vous vous en sortez. Vous avez déjà senti l'essentiel.
Moi, je sais pas, j'ai juste...
Mais t'as jamais envie de te faire cuire un truc toi-même? De faire à manger chez toi?
Je sais pas. C'est tellement loin. C'est parce qu'avant toi, j'ai l'impression qu'il y a jamais...
Toi, tu m'énerves.
Non, ce qui va pas, c'est ça. Chemise kirbique, la veste qui fripe. Et les chaussures? Pourquoi elles brillent pas?
Enfin, Catherine, qu'est-ce que tu aurais voulu?
Tu vois, les chaussures. Je vais pouvoir me maquiller dedans. Je sais plus qui a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
Enfin, Catherine, qu'est-ce que tu aurais voulu?
J'aurais bien voulu être ton amie. Je me suis forcée à ne pas t'aimer. Je me suis dit que t'étais un sale type sans intérêt, morne, froid, ennuyeux, un sinistre con, quoi.
Oui, je comprends.
Et ça a marché. Non, mais prends pas mal, c'était une technique.
Même si nous désirons tous deux un léger baiser sans grands effets, nous devons nous protéger contre toute conséquence imprévue.
Comment voulez-vous faire?
Eh bien, nous allons nous embrasser. Et une fois le baiser fini, nous nous tairons.
Alors, récapitulons. Donc, on vient de vous entendre Julie Gayet dans Delphina, Yvan Zéro de Dominique Farrugia, Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, Mon meilleur ami de Patrice Lecomte, Nos plus belles vacances de Philippe Lelouch et Juste un baiser d'Emmanuel Mouret. On a oublié beaucoup, non?
Un baiser, s'il vous plaît. D'Emmanuel Mouret.
Oh pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, alors que j'ai adoré ce film et j'adore Emmanuel Mouret.
Mais c'est assez joli, oui c'est un joli film, c'est un très joli film, oui. Et j'aime énormément l'écriture d'Emmanuel Mouret, vraiment, pareil, cette envie de produire vient certainement de ses metteurs en scène. Mais là, c'est drôle de réécouter ça parce que je vois... Dans Delphina, Yvan Zéro, oui alors tu vois, tu comprends, vas-y, tu sais faire ça, cette fameuse... Ah voilà, mon meilleur ami... J'ai voulu, avec cette voix un peu plus grave, qui est un peu plus grave que ma voix, peut-être Quai d'Orsay, qui est une voix comme ça, qui est un peu plus proche du centre. Et donc comment, d'un film à un autre, on change de voix, on prend une voix plus aiguë, une voix plus grave, on modifie, on parle plus...
Vous êtes plutôt une soprano au départ, hein, me semble-t-il.
Alors, oui, je viens du chant lyrique, mais comme je viens du chant lyrique, je peux pas ne pas travailler un rôle sur la voix. J'ai vraiment complètement changé de voix d'un film à un autre.
Et vous avez d'ailleurs une expérience de metteur en scène d'opéra, puisque vous avez mis en scène Les Noces de Figaro.
Ah, voilà, très humblement, mais effectivement...
Humblement, mais réellement.
Oui, mais c'est l'opéra en plein air, donc c'est tout à fait différent. Et c'est avec cette envie, justement, de peut-être vulgariser ou permettre à certains qui n'ont pas les moyens d'aller à l'opéra.
Mais ça, c'est votre côté militante. Vous voulez porter l'opéra au peuple.
Non, c'était vraiment là, à ce moment-là, une opportunité. Et comme je suis toujours dans le concret de ce qu'on me propose au moment où on me le propose, je me suis dit qu'effectivement, d'abord, l'intérêt de l'opéra en plein air, c'était ça. Et puis, c'était retransmettre ce que moi, on m'a donné avec l'opéra, ce que j'ai aimé. Puisque du chant lyrique, je suis allée vers la comédie pour essayer d'aller plus loin dans l'interprétation.
Didier Van Kovelaert, je crois que vous aviez une question pour Julie Gaillet.
Vous me court-circuitez ma question. Non, je voulais justement vous demander, c'est vrai, Christophe et témoin, j'avais demandé avant qu'on en parle, si vous alliez reprendre le chant.
Non. Non, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, ça a été une décision très difficile de décider de ne plus chanter.
Parce que c'est un entraînement quotidien, c'est pas
c'est 3
juste,
heures par jour,
c'est pas
tous les jours.
Un changement de registre, c'est vraiment un changement de vie au quotidien, de positionnement par rapport à sa voix.
Donc comme vous le savez, il y a une question d'âge et je suis arrivée à un âge où la voix, malheureusement, voilà, je pourrais chanter la chanson contemporaine, mais ce que j'aime, c'est l'opéra, vraiment.
Quel est votre opéra favori?
Fait ce choix. Là, c'était vraiment Les Noces de Figaro. C'était
c'est votre volonté. Vous aimez Mozart et c'était.
J'aime
pour ça.
Mozart, mais surtout j'ai chanté cette air-là, de Barberina, de la Barberine, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans. Donc ça a été un vrai choix et j'aime cet opéra. Mais pour revenir au chant, pour essayer d'arriver, c'est vrai que le fait de jouer, j'ai fait ce choix-là. Chanter, finalement, c'est se mettre, c'est être artiste, c'est se mettre. Je parle de la musique contemporaine. Si je me mettais à chanter, en fait, je me suis dit, je le ferais au travers des films. Et donc, j'ai chanté dans Clara et moi. Je chante dans les films au travers des personnages. Mais le chant lyrique, maintenant, c'est.
Parce que c'est vrai que ça donne. Et on l'entend d'ailleurs dans le medley, ces différentes voix que vous prenez. Il y a quand même une agilité, une technique justement pour mettre l'émotion au service de la tessiture et inversement, ces points de rencontre. Moi, ça me touche beaucoup la voix. J'écris à voix haute, quand les gens me disent « Ah là, c'est très visuel ce que vous écrivez », mais j'ai très peu de descriptions. Je les travaille au son, mes descriptions.
Vous lisez vos manuscrits.
Ah ouais, et sur les dialogues, parce que je change de voix. J'ai besoin d'avoir le retour son. Ce que Flaubert a appelé faire son gueuloir. J'ai besoin vraiment de sentir au niveau du rythme, au niveau des changements.
Vous avez besoin d'actrices qui viennent lire de temps en temps.
Ouais, oui,
mais je trouve que absolument. L'exercice à l'école, par exemple, de lecture à voix haute, c'est nécessaire.
J'ai beaucoup
milité
là-dessus, je vais beaucoup dans les écoles là-dessus, et on voit l'effet. Ça et le théâtre, c'est de la manière de s'approprier le texte, et au lieu de simplement répondre à des questions qu'a voulu dire l'auteur, alors que qui sait ce qu'avait voulu dire l'auteur lui-même, n'en est pas toujours sûr. Mais en revanche, quand on joue le texte de l'intérieur, on le comprend et on le partage.
J'aime les lectures.
Ouais. Et moi aussi.
I'm the bad pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
J'adore.
Ah bah tant mieux, ça me fait très plaisir. C'est de plus en plus jeune puisque la chanteuse Billie Eilish n'a que 17 ans. Alors moi ce que j'aime beaucoup en elle, vous voyez Julie, c'est ce mélange de parler et de chuchoter. C'était Bad Guy et c'est, je précise quand même, une programmation susurrante de Muriel Pérez. Si, si.
Estivalitude sur France Inter.
Alors Julie, depuis un bon bout de temps, je sais que vous aviez une question pour Didier Van Kovelaert, pour Julie Gaillet.
Alors, à mon tour, j'avais pensé à cette question, mais c'était plus parce qu'on m'a demandé une question, mais sur le rapport d'être seul, d'écrire seul, et ensuite de diriger une équipe. J'aime beaucoup cette phrase, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire,
ce double... Proverbe africain.
Ben ça... Ça a été les deux bourgeonnements de ma vie depuis l'enfance. À la fois, j'avais besoin de la solitude. Je commençais à écrire à 8 ans. J'avais ce besoin de construire tout seul les univers. Et en même temps, j'avais besoin de les partager. Donc, je commençais par lire, par faire des feuilletons, dans la cour de récréation avec copains. Parce qu'au début, on se moquait de mon nom belge, comme je grandissais à Nice. Les enfants sont un peu cruels. Et au lieu d'essayer de faire couleur locale, j'en rajoutais. J'apprenais le flamand. Je leur chantais du Brel en flamand et tout.
Et puis, des histoires à eux.
Et puis même parfois ils se mettaient 10 à essayer de me cogner, puis tout seul on a rarement le dessus, jusqu'au jour où je me suis mis à raconter des histoires et j'ai découvert le pouvoir de l'imaginaire, en fait la violence naît de l'ennui, vous racontez une histoire tout à coup, et là j'ai fait de l'abus de pouvoir quand je terminais à la fin de la récréation.
Comme Sherazade en fait, vous êtes le Sherazade des millénaires.
Sauf que là, c'était...
Quand
je m'arrêtais, je risquais pas d'être tué, au contraire, ils me suppliaient de continuer, alors quand je savais pas du tout ce que j'allais raconter après, je disais non, la suite au prochain numéro, et on pouvait rien m'arracher. Et après, je suis passé à la direction, justement, d'acteurs, au club théâtre, au collège, tout de suite.
Tout à l'heure.
Et à la fois, je suis très bien quand je suis tout seul, et j'adore partager ce travail. Quand le travail d'équipe marche, c'est les sensations les plus hautes, la vraie famille. J'étais très heureux dans mes tournages cinéma, dans la mise en scène. Voilà, et après, je suis très heureux de retrouver ma solitude, mais c'est de l'hygiène de vie aussi, c'est de l'hygiène de création, d'avoir plaisir de retourner après dans l'autre pan de sa vie.
Alors, je poursuis notre émission, parce que ce que vous dites est absolument passionnant, on découvre des pans, c'est un peu phénoménologique, c'est psychédélique en même temps.
Non, mais c'est intéressant sur le harcèlement scolaire. Moi,
c'est hyper intéressant.
Et le harcèlement scolaire, c'est une réalité. J'ai raconté, dans divers livres, ça, oui. Comment on peut se construire là-dessus?
Et c'est vrai qu'il faut que je lise, alors lequel?
Chez Yen.
D'accord. Pardonnez-moi, Christophe Bourseiller, nous faisons l'interview.
Vous voulez que je prenne des notes pour vous, Cheyenne?
Parce que Cheyenne, c'est celui qui est le plus autobiographique par rapport à
moi, j'aurais bien voulu qu'on découvre un autre aspect de Julie. C'est pour ça que je me permets d'insister très légèrement.
Comme une
plume déposée à la surface d'un lac immobile.
En plein mois d'août,
en plus, il n'y a personne, enfin, à part ceux qui nous écoutent. Et donc, Julie, je vous ai demandé le son qui vous résumait, et c'est très surprenant. Écoutez, le son qui vous résume, c'est un astrophysicien qui nous a quittés il y a quelques années,
qui est
André Brahic.
Un bébé n'est pas forcément condamné toute sa vie à vivre dans son berceau. La Terre, c'est le berceau de l'homme. Je suis persuadé que dans les siècles qui vont venir, on ira voir Mars, les satellites de Jupiter, de Saturne, et peut-être, dans ce millénaire, on ira voir d'autres planètes autour d'autres étoiles, et tout le monde dira, tout ça a commencé au mois de juillet 1969. L'homme mettait le pied pas très loin sur la Lune. C'était le début de mes histoires. Quelle chance ils avaient de vivre à ce moment-là.
Incroyable, ça fait plaisir de l'entendre, cette passion, on le sent dans sa voix, il est passionné. C'est très très fort.
C'est quelqu'un que vous avez connu ?
C'est quelqu'un que j'ai connu, c'était quelqu'un que je l'écoutais de loin et j'ai eu la chance de le connaître, mais je l'admirais avant, de très positif et qui nous met la tête dans les étoiles et je trouve vital, nécessaire de regarder un peu plus haut, en hauteur, comme de regarder l'horizon. Parce que cette année, c'était les 50 ans de l'homme à marcher sur la Lune.
Bah oui, on est dedans, hein, l'année 2019, notre
Non, mais c'est fou de se dire ça, c'est-à-dire ça a été une révolution. Une révolution.
J'étais là, moi j'ai la chance.
Vous étiez sur la Lune vous-même, hein, vous
étiez devant mon poste, devant en direct. Et bah alors, oui. Je me souviens précisément le moment, j'étais en vacances en Savoie, et c'était la maison d'à côté, c'était de deux vieux paysans qui avaient la télé, et nous
c'est
non.
C'est un choc.
Et alors. Moi, j'étais évidemment ébloui, tout ça, j'avais 9 ans. Mais ce que j'ai jamais oublié, c'est la réflexion du vieux paysan qui voyait l'image. Et lui, il dit, bah, les doigts, je vois pas ce qu'ils vont pouvoir faire pousser là-bas. Hein.
Alors.
Mais c'est le point de vue de l'homme a changé ce jour-là. Et je pense qu'il y a eu il y a quand même des révolutions. Il y a eu cette révolution-là. Et l'homme et la femme, enfin la femme l'égale de l'homme, deuxième révolution,
oui, révolution
que vous êtes en train de vivre.
Révolution qui est en cours, ne me regardez pas comme si j'étais votre ennemi, ce n'est pas le cas. Révolution qui est en cours.
Non, un allié.
Espérons. Didier, le son qui vous résume, c'est peut-être un petit peu différent, c'est ça.
Radio Scoopy,
Didier Van Coflar,
Jacques Chancel.
Ça doit être émouvant, ça, hein, de se dire, oh là là.
Ce qui était très émouvant, je vais essayer de faire bref. Mais quand j'étais gamin, à 8 ans, pour m'encourager à écrire, évidemment, j'écoutais Jacques Chancel, la radioscopie à 17h sur Inter.
À réécouter, d'ailleurs.
Et je m'imaginais, je préparais mon interview, je m'entraînais, parce que je voulais être le plus jeune romancier publié au monde. Et donc, je m'interrogeais, alors, et je me disais, Didier Van Coevelaert, comment devient-on Didier Van Coevelaert?
Est-ce qu'il a posé cette question-là?
Et alors,
non.
La chance merveilleuse, c'est qu'ensuite, lorsque je suis finalement publié à 21 ans, je me retrouve en vrai devant Jacques Chancel dans l'extrait que vous avez placé, et j'ai raconté après combien je m'étais entraîné pour cette émission. Et quand on a vraiment aimé admirer, Chancel était un vecteur. J'ai su aussi passionné par les astrophysiciens, par les botanistes, par ces gens qui ont cette flamme. Voilà. Cette flamme d'artiste dans un monde de science qu'on croit souvent à tort fermé, froid, dogmatique, et en fait les vrais comme celui que vous avez fait entendre, on sent la passion, on sent la démesure, et c'est très proche de notre tempérament d'artiste.
Tu veux que je te raconte un souvenir ?
Un souvenir, oh oui.
Si vous saviez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
J'ai devant moi sur France Inter deux personnes qui manifestement ont choisi de rester à Paris, en tout cas pour le moment. Peut-être allez-vous partir demain ou après-demain. Je dois dire que Didier Van Coevelaert, vous dites l'avantage de l'été, c'est que les emmerdeurs sont en vacances. Et quant à vous, Julie, je sais que vous détestez carrément les vacances. Donc, on va commencer par vous, Julie. Julie Gayet, le plus grand souvenir de vacances que vous ayez, c'est un peu un souvenir de cauchemar, un souvenir d'autoroute.
C'est peut-être pour ça que je n'aime pas les vacances. Mais il y avait ce film, Le Grand Embouteillage.
Absolument,
comme Angie.
Oui,
ouais, formidable.
Ah, elle est marquée, terrifiant, film terrible. Et ben moi, je vivais ça, c'est-à-dire que j'ai connu les vacances où on avait des heures, la journée entière dans les bouchons pour descendre dans le sud en voiture avec mes parents. Voilà, mon frère qui dormait sur la banquette en haut, moi au milieu, mon petit frère en bas. Et j'ai vécu un carambolage.
Les journées noires de bison futé. Ah oui, vous avez vécu un carambolage.
Très jeune. Alors, toujours cette conscience de la mort très très aiguë, et là depuis j'évite cette transhumance, voilà. Donc là je suis à Paris le 7 août
Vous êtes en décalage.
Je n'aime pas du tout ce moment-là et je préfère le train, voilà, malheureusement maintenant à la voiture.
C'est très agréable le train. En tout cas, c'est vrai que Julie Gayet, c'est pas quelqu'un qui a un souvenir très ému de ses vacances. Alors vous par contre, Didier Van Coevelaert, vous vous souvenez de l'été de vos 11 ans.
Ouais, c'est
pourquoi
c'est pas au niveau des vacances, c'est vraiment un souvenir de travail. C'est le moment où je voulais absolument trouver un éditeur et j'avais découvert dans le journal qu'on pouvait être édité en payant, quoi, un éditeur à péage. Et j'avais décidé d'aller à Paris. Voilà, j'avais cassé la tirelire et un peu piqué dans la caisse de la pépinière de ma mère là pour me payer un première publication, et je profitais d'une escale à Paris alors que j'allais chez un correspondant anglais, et là je suis dans cet avion et je tombe amoureux de l'hôtesse de l'air. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, elle s'appelait Cheyenne. Et son rapport avec le manuscrit que je suis en train de corriger une dernière fois avant de le donner. Et puis, je suis un UM, hein, un enfant voyageant seul avec la petite pochette blanche. Il y a deux gamines UM aussi à côté de moi. Et il y en a une qui vomit sur mon manuscrit. Et la manière, finalement, c'est l'horreur absolue. Et la manière dont l'hôtesse de l'air a séché mon manuscrit, est allé à l'avant et a pris un sèche-cheveux pour finalement le sécher, c'était d'une sensualité. Cette image-là, pour moi, à 11 ans, parce que c'était la réunion de cet idéal féminin inaccessible pour un petit garçon qui n'est pas regardé par les filles de son âge.
Et de la bienveillance.
La bienveillance. Et en même temps, c'était, elle tenait mon manuscrit. Quoi. C'était ma vie professionnelle. C'était et la vie amoureuse. Et j'ai fait croire que je m'arrêtais à Paris et donc que personne ne venait me chercher pour qu'elle soit responsable de moi et qu'elle me garde avec elle. Je l'ai retrouvée 10 ans après, puis je raconte ça dans Cheyenne, mais voilà, ça, c'est mon souvenir d'été marquant et...
Merci infiniment, Julie Gayet et Didier Van Kovelaert. Vous avez tous deux fait preuve de tellement d'estivalitude que j'avais même du mal à conduire ce Boeing. Julie Gayet, le film « C'est quoi cette mamie ?» de Gabriel Julien Laferrière sort aujourd'hui même dans les salles. Et puis je vous signale que votre série « Soupçons » passe sur France 3 à la fin du mois d'août. Faut pas oublier évidemment cette série « Soupçons ».
Série estivalière.
C'est ça.
C'est chaud.
Et pour vous, Didier Van Kovelaert, bien sûr, votre dernier livre « Une personne de confiance » est donc paru au printemps chez Albin Michel. Alors vous pouvez bien sûr réécouter podcaster cette émission sur le site de France Inter. C'est Juliette Médevielle qui réalise tous les jours Estivalitude. Et je remercie Saad Merzak, Claire Tesser, Pierre Goulencourt et Astrid Landon pour leur précieux concours à la technique Anne-Laure Cochet. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain à 9h sur France Inter. Messieurs, dames, à demain.